les podcasts de l'UA.
Bonjour et bienvenue sur le podcast PICT, penser, traduire et représenter les corps, dire l'intime.
Nous sommes Ludivine Bouton-Kelly et Agatha Moringue, maîtresse de conférence à l'Université d'Angers.
Chaque mois, nous interrogeons des chercheuses et chercheurs, des traducteurs et traductrices, ainsi que des artistes, afin d'analyser de manière transversale les représentations complexes des corps et de l'intime dans les arts et la culture populaire.
À travers le prisme de la traduction et de l'étude des représentations, nous parlerons poésie, théâtre, peinture et bande dessinée.
Véronique Béguin et Isabelle Poulain dirigent la collection Translation aux Presses universitaires de Bordeaux. Respectivement professeurs en études anglophones et professeurs en littérature comparée à l'Université Bordeaux-Montaigne, elles entendent toutes deux promouvoir une approche traductive de la littérature et les deux pendants de cette collection, Pensée de la traduction et Pratique de la traduction, en attestent. Elles m'ont fait le plaisir de m'accueillir dans leur mur pour me parler de cette aventure éditoriale très exaltante.
Alors, La Naissance, le premier volume a été publié en 2011, mais évidemment, il y a eu plusieurs années, je crois, de réflexion et de négociation. L'idée est née d'enseignement, et liée à la recherche, d'enseignement comparé, en littérature comparée, qui était fondée sur des traductions et des comparaisons de traductions, et qui a mené à découper beaucoup les textes et à bricoler beaucoup. Et moi, j'avais découvert le petit volume de Philippe Brunet, consacré à L'égal des dieux, ah voilà, le poème de Sappho, 100 versions d'un poème de Sappho, L'égal des dieux, et qui donc, dans un seul volume, présentait une centaine, je crois, de traductions. Je m'en servais comme support de cours. Il avait été préfacé par une collègue et je trouvais ça très intéressant. Les étudiants étaient assez stupéfaits de découvrir qu'on pouvait retraduire. Et puis, nous, on a eu l'idée avec les collègues comparatistes, et ensuite, je vais laisser Véronique Béguin raconter sa présence, d'ajouter des langues étrangères, de regrouper des traductions en langue française et quelques langues étrangères, mais dans un format dont je reparlerai après avoir donné la parole à Véronique. Voilà.
Oui, c'est Isabelle qui m'a fait entrer dans ce projet qu'elle a fondé avec quelques comparatistes et qu'elle a piloté. Et elle m'a associée parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille toutes les deux en traduction et traductologie, chacune dans notre secteur. Isabelle, du côté de la littérature comparée, moi, du côté des études anglophones et de la traductologie. Et évidemment, j'étais emballée par le principe de cette collection. Alors, c'est en fait une collection double, d'ailleurs, qui comprend deux volets. Il y a un volet qui s'appelle « Pratique de la traduction », qui est le volet qui inclut toute une série de volumes articulés autour d'un extrait d'un grand texte et de ses différentes traductions dans différentes langues. Et puis, il y a un volet « Pensée de la traduction », qui est un volet plus réflexif, plus universitaire dans sa conception, qui inclut des volumes différents, issus de colloques ou de journées d'études ou pas, comme par exemple le volume que j'ai coordonné il y a quelques années qui s'appelle « Quand l'Europe retraduit The Great Gatsby », qui tourne autour des traductions de Gatsby au moment où l'auteur est tombé dans le domaine public. Il y a un volume sur la traduction de la bande dessinée que j'ai coordonné avec Isabelle Icari et bien d'autres volumes dont à apparaître, dont on pourra peut-être parler un peu plus tard. Voilà, et donc moi, le projet m'a emballée puisque du point de vue à la fois de mes recherches et de mes enseignements, je pratique la comparaison de traduction de manière intensive que j'introduis depuis bien des années maintenant, dès la licence, dans la licence d'anglais, puisque dans l'option traductologie, les étudiants sont amenés à comparer différentes traductions d'un même texte. Donc là, ce sont tous évidemment des textes des littératures anglophones. Et puis, du point de vue de la recherche, je travaille beaucoup, moi, sur la retraduction et sur la comparaison de traduction. Donc, cette collection était absolument en phase avec mes propres préoccupations.
Très bien. Et est-ce par rapport aux langues représentées ? Est-ce que vous pouvez dire un mot déjà de...
Alors, il n'y a
ce
pas
que vous aviez envie de faire
une ouverture maximale. Ouais. Je pourrais juste dire un mot d'abord de l'objet qui a donné lieu à une réflexion assez longue avec l'infographiste de l'Université Bordeaux-Montaigne, Lionel Cazot. Je ne veux jamais manquer de le citer. Donc, il a composé un objet peut-être qui pourrait être amélioré, mais qui est composé d'un petit livret, une introduction qui présente les traductions, normalement, plus qu'il ne les analyse, et puis des fiches indépendantes sur lesquelles un fragment de texte original et plusieurs traductions sont reproduites de façon à ce qu'on puisse les mettre en vis-à-vis et les disposer sur une table, etc. Le premier volume a été consacré au monologue d'Hamlet. Le second, donc, à cette tirade, il s'appelle « To be or not to be ». Le second, au chant des sirènes, dans l'Odyssée d'Homère. Le troisième, au moulin à vent de Cervantes, donc anglais, grec, espagnol. Ensuite, il y a eu de l'allemand, la poésie de Rilke, de l'anglais encore avec Beckett, de l'anglais avec le poème de Kubla Khan, et enfin, dernier volume, les poèmes de Darwish, donc de l'arabe. Et j'ajouterai un regret, mais j'essaierai d'en proposer un volume comme ça avant mon passage à la retraite. Et puis, ça sera peut-être repris par d'autres. J'aimerais bien faire l'inverse, c'est-à-dire publier un extrait d'écrivain français et plusieurs traductions de cet écrivain dans d'autres langues. J'ai fait souvent cours sur Rimbaud comme ça. C'est très intéressant. Et voilà, donc c'est le manque de temps et aussi peut-être d'accompagnement dans un premier temps de presse universitaire qui trouvait ces objets un peu étranges. Donc, on a perdu beaucoup de temps à imposer l'idée. Voilà. Mais maintenant, les langues, c'est vraiment très ouvert. Et bon, j'avais l'idée, j'ai dans mes archives un volume consacré à Joyce, Finnegan's Wakes, avec une traduction en chinois. Mais je n'ai pas obtenu de l'auteur de la collection de traduction qu'elle écrive encore l'introduction. Mais enfin, voilà, c'est pour dire que le chinois est aussi un horizon.
Oui, et puis les genres sont aussi assez ouverts. On a du théâtre, on a de la poésie, on a de la prose, de la fiction. Donc, on n'a pas développé le pan sciences humaines pour le moment. C'était une idée qu'on avait. Bon, c'est plus compliqué parce qu'il existe souvent moins de variétés des traductions dans le domaine des sciences humaines, mais il y a des cas célèbres, intéressants, comme par exemple la traduction du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui existe, enfin, il y a plusieurs traductions. On pourrait envisager aussi, dans l'autre sens, différents grands textes philosophiques dans plusieurs traductions. Donc, ça reste ouvert. On est à la fois tributaire des propositions qu'on nous fait et aussi du temps, du manque de temps qu'on a l'une et l'autre à consacrer à la recherche de contributeurs. Après, on lance des sondes. Moi, j'ai lancé plusieurs sondes. Je suis en attente de réponses aussi d'un certain nombre de collègues. En général, les collègues sont assez enthousiastes, d'autant plus que, dans un premier temps, ce n'est pas non plus un travail colossal. Alors, je dis dans un premier temps, parce que identifier un extrait intéressant d'une œuvre canonique, identifier différentes traductions de cet extrait, à la fois en français, mais aussi dans d'autres langues, ça n'est pas un travail colossal. Rédiger la préface, qui est très limitée en termes de volume, ce n'est pas compliqué. Ce qui est très compliqué, c'est l'obtention des droits. Ça prend beaucoup de temps et on n'est pas aidé par notre éditeur, donc de ce point de vue-là. C'est vraiment quelque chose qui reste essentiellement à la charge des pilotes de chacun des volumes et ça peut prendre pas mal de temps.
Oui, donc ça, c'est une difficulté. Vous parlez de la difficulté du format. Là où moi, je trouve que la format est une des grandes pertinences de l'objet. C'est vraiment ce qui m'a attiré la première fois que j'ai vu le premier tome à mettre. Parce que je trouve que pédagogiquement, vous en parlez très bien, ça vient en fait ouvrir la traduction à une pratique qui sort de la version, qui sort de quelque chose de très académique. Et ce format-là, il illustre en fait. Et pourquoi c'est si compliqué de l'imposer? Est-ce que c'est aussi des raisons économiques parce que c'est sous forme de fiche, là, on peut pas, ou c'est simplement...
Je crois pas. Je pense que c'est plus parce que ça semblait peu académique et qu'il a fallu imposer l'idée que c'était un objet très lié à l'enseignement, lui-même très lié à la recherche et que ça manquait beaucoup et que, voilà, je crois que c'est pas tellement une question de coût parce que la collection, contrairement à d'autres, rapporte puisqu'on en a beaucoup vendu parce que, je ne sais pas si Véronique l'a fait, mais en littérature comparée, on a très souvent mis un de ces petits volumes au programme des cours, donc ils sont achetés. Mais non, je ne vais pas commenter longtemps, mais ça a été pénible, ça, parce qu'il y avait l'idée que ça n'était pas un objet académique. Voilà, parce que c'est un peu plus créatif, peut-être, mais c'est tout à fait rigoureux et pertinent, voilà, je dirais.
Mmh, je pense que ça dit beaucoup, en fait, parce que pour moi, c'est un support pour penser la traduction qui est vraiment différent de celui d'un manuel.
Absolument.
Et qui... et qui, au contraire, en fait, ouvre des portes qu'un manuel ne...
Ouais. Alors, il y a aussi un élément peut-être historique, c'est-à-dire que l'intérêt pour la comparaison de traduction, la retraduction, il est relativement récent, dans le sens où, je ne suis pas en train de dire que les retraductions, c'est un phénomène récent, pas du tout, mais l'attention apportée à la variété de traductions d'un même texte, dans les médias, par exemple, c'est relativement récent. On voit maintenant des journalistes écrire sur une nouvelle traduction d'un texte canonique et faire des commentaires sur, qui relèvent de la comparaison de traduction. Mais ce n'est pas quelque chose de très ancien, ce n'est pas forcément quelque chose de très médiatisé non plus à une autre échelle. Et donc, je pense en fait que... C'est le moment en fait de mettre en avant ce genre d'entreprise parce que on voit bien dans différents contextes où on peut intervenir l'une et l'autre, que ce soit des soutenances de thèse, des colloques, des interventions en librairie ou des interventions dans des festivals, on voit bien qu'il y a un intérêt du grand public pour la question de la traduction et notamment une vraie curiosité, bon, pour les coulisses de la traduction, mais aussi pour l'existence de multiples traductions d'un même texte et une attention à la différence, à la différenciation des stratégies des uns et des autres. Donc, c'est aussi un objet, moi, je le présente régulièrement dans des colloques où je vais, des colloques plutôt sur la traductologie, enfin, dans le domaine de la traductologie, je l'emporte et je le vends, mais c'est un petit peu aussi à notre charge de faire les représentants de commerce parce que c'est pas une collection qui est très présente en librairie parce que c'est publié par des presses universitaires en partie.
Oui, bien évidemment, parce que je pensais à la visibilité du traducteur ou à la nouvelle collection Contrebande de la Contre-Allée, par exemple, où là, on est face à une collection qui, évidemment, a une visibilité autre. Mmh. Vous êtes dans des cercles plus fermés, bien évidemment. Mmh. Et donc,
oui, peut-être qu'il faudrait investir plus d'argent dans un objet qui soit plus facile à présenter en librairie aussi, parce qu'en l'état, il est présenté sous plastique. Mm. Donc, c'est très difficile de se faire une idée de ce que c'est. S'il était dans une boîte, alors là, ça coûte plus cher. Mm. Et à la réalisation et à l'achat. Mais ce serait bien que je ne sais qui s'empare de l'idée, parce que répandre ce rapport très concret, presque artisanal... Le plurilinguisme, c'est quand même important dans le monde d'aujourd'hui.
Oui, essentiel. Et puis, il y a un côté ludique aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça a beau être un objet académique, parce que publié par les presses universitaires de Bordeaux, quand on a l'objet en main, on se dit que quelqu'un qui s'intéresse un tant soit peu à la littérature peut avoir plaisir, sans avoir aucune pratique de la traduction, à regarder ce que ça donne, en fait. Et ça... Et est-ce qu'il y a eu des lectures publiques de ces textes ou est-ce que vous en avez fait autre chose aussi?
Oui, alors moi j'ai une expérience au festival, je crois que c'est sur les quais, en Suisse, évidemment la ville va m'échapper. J'avais été invitée pour présenter l'histoire des traductions en langue française qui a été publiée chez Verdier et la collègue traductologue qui avait organisé la séquence m'avait justement proposé de faire connaître à cette occasion le volume et elle a confié le Quichotte par hasard, à des étudiants en théâtre. Et ils ont fait une représentation, donc c'est la scène des Moulins à Vent, plurilingue, c'était assez magnifique, dans un lieu assez très beau de ce village qui m'échappe encore, veuillez m'excuser. Et c'était, le public était, et moi-même, j'étais assez impressionnée par l'effet de, à la fois de familiarité et de défamiliarisation et de jeu aussi. Théâtrale et puis aussi peut-être plus enfantin. C'était très réussi. Voilà l'expérience que j'ai personnellement. Peut-être que tu en as eu d'autres.
Non, je n'ai pas d'expérience.
Après, j'ai aussi, c'est votre podcast qui m'y fait penser, proposer comme exercice à des étudiants de présenter sous forme de petits podcasts, mais en cours, des traductions de leur choix. Et ça, c'était... Alors, ils les lisaient dans plusieurs langues. Et alors, c'est vraiment plus anecdotique, mais on voyait un réel plaisir à s'approprier ces textes, à les choisir, à les assembler. Voilà. Donc, je pense que ça pourrait être développé, ça, avec, avec peut-être beaucoup de, d'efficacité pour gagner l'intérêt d'un public qui ne connaît pas l'objet.
Oui, ça donne bien. Et sur la, le choix des extraits, comment vous y prenez ? Ce sont les auteurs qui s'emparent de, du projet ?
Oui, oui, ce sont les auteurs qui sont vraiment les seuls maîtres à bord dans un premier temps, puisque ce sont eux qui sélectionnent l'extrait de l'œuvre originale. Alors bon, il y a effectivement le cas du monologue d'Hamlet, mais dans d'autres cas, ça ne va pas forcément être un extrait particulièrement, enfin aussi célèbre que le monologue d'Hamlet. Et ensuite, libre à eux de sélectionner les traductions qui leur paraissent les plus pertinentes, sachant que dans certains cas, il y a beaucoup, beaucoup de traductions existantes. Dans d'autres cas, le nombre de traductions françaises, en tout cas, est limité. Et ensuite, libre à eux de chercher, de solliciter. Souvent, je parle de solliciter parce que souvent, ça passe aussi par des réseaux de collègues s'intéressant à la traduction dans d'autres pays qui vont attirer l'attention du responsable du volume sur l'existence de telle traduction, de tel texte en allemand, de telle traduction, de tel texte en espagnol, en italien, etc. Et donc il n'y a pas une volonté d'exhaustivité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des volumes où on peut considérer qu'il manque la traduction, je ne sais pas moi, hollandaise de tel ou tel texte, mais bon... Ça, c'est vraiment, en fait, laissé à la subjectivité, au libre arbitre de chaque responsable de volume. De même que les responsables de volume peuvent souhaiter mettre deux traductions vers l'allemand ou deux traductions vers une langue donnée qui n'est pas le français.
C'est le cas pour Hamlet, oui. Il y a deux traductions russes, deux ou trois italiennes, espagnoles. Si c'est pertinent de les comparer aussi, c'est intéressant. Mmh. Et le dernier volume consacré à Darwish, lui, a... préparé par notre collègue F. de Dampierre Noiret, a été construit autour de deux poèmes. Voilà, donc ça, c'est une autre idée qui a permis de donner à lire une plus grande diversité. Voilà. Donc ça, c'est assez libre, mais ça appartient peut-être qu'on pourrait faire un appel à proposition. Hein. Ceux qui ont envie de construire un volume, en général, viennent avec l'extrait, le poème, l'idée. Voilà. Nous, on pourrait aussi passer commande. Hein. Moi, j'ai quelques idées aussi. On a vu des propositions sur Alice au Pays des Merveilles. Le manque de temps et aussi, à un moment, le découragement qui moi, m'avait gagné face aux résistances des presses, qui vraiment ne faisait pas beaucoup de publicité. Hein. Je ne sais pas si on peut dire que ça a changé. On va voir, peut-être. Mais ça a l'air moins... Comment dire, on nous a sollicité pour rééditer un volume épuisé, donc c'est peut-être encourageant, ça.
Et le format de la fiche n'est pas si contraignant, finalement, puisque vous pouvez avoir un nombre de fiches, pas illimité, mais...
Ouais.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression qu'un étudiant ou quiconque pourrait alimenter le nombre de fiches. Enfin, ça ouvre, en fait, à tout...
Oui, et puis il y en a qui sont doubles, si besoin, voilà. Pour la prose de Cervantes, c'est un peu plus long que de reproduire la poésie, bon. Il y a un système même de trois fiches qui se déplient pour Beckett. Donc, c'est assez inventif de la part de l'infographiste.
Oui,
et c'est très pratique ensuite à l'usage, vraiment, pour présenter, faire connaître cette approche par la traduction des grands textes. Voilà. Même des morceaux choisis. Parce que justement, il y a une sorte de prolongation infinie qui s'esquisse. Voilà.
Oui, parce que l'ambition, ça marche dans les deux sens, j'ai envie de dire. L'ambition, c'est à la fois de montrer comment un texte donné peut donner lieu à des traductions différentes, voire très différentes, mais c'est aussi, par le biais de la traduction, d'amener à des lectures différenciées d'un original. Donc, c'est vraiment une collection qui s'adresse à un public assez divers, à la fois des gens qui peuvent, d'ailleurs, c'est comme les joutes de traduction. Parfois, quand j'organise des joutes de traduction, on me dit « Ah, mais moi, je ne connais pas telle langue, je ne vais pas pouvoir venir, etc. » Et en fait, il n'y a pas besoin de connaître les originaux, puisque en fait, alors il y a différentes approches, évidemment. On peut trouver un intérêt à comparer les traductions à l'original quand on est compétent dans la langue de départ. Mais on peut aussi trouver un intérêt tout simplement à regarder différents états du texte à différentes époques, parce qu'il y a aussi une dimension historique dans ce travail, c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en perspective aussi des stratégies de traduction selon les époques. On sait très bien qu'on ne traduit pas en France de la même manière au 19e, au début du 20e siècle que maintenant. Il y a des grandes tendances. Et ça, les volumes le mettent en évidence de manière très claire. De même que pour ce qui est de Shakespeare, on voit bien que Bonnefoy ne traduit pas comme Markovitch, qui ne traduit pas comme Desprats, etc., pour donner quelques exemples.
Comme Voltaire.
Alors Voltaire, c'est un cas extrême, effectivement.
Mais qui est très parlant pour les étudiants, oui, parce que quand on leur montre ça, c'est...
Tout à fait.
Donc voilà, donc il y a cet intérêt-là pour des gens qui sont compétents dans la langue de départ, mais il y a aussi un intérêt... Pour le public cultivé ou le public curieux, simplement, qui va avoir envie, sans même se poser la question de savoir si c'est exact, pas exact, par rapport à l'original, mais simplement qui va avoir envie de voir comment un texte français, enfin en français, issu d'un texte en langue étrangère, existe. Sous différentes formes, avec différents partis pris, dans différentes collections aussi, ou chez différents éditeurs, parce qu'il y a la question de l'histoire, mais il y a aussi la manière dont chaque éditeur, selon l'époque, va s'emparer de tel ou tel texte et en faire un objet différent. On sait par exemple que les traductions dans les éditions bilingues ne sont pas du tout conçues de la même manière que des traductions faites pour la jeunesse comme public cible, en priorité, ou des traductions dites savantes. Voilà.
Oui, c'est intéressant aussi de montrer la vivacité en fait, de la littérature. Je trouve que sans être spécialiste, on se rend compte à quel point les textes bougent, sont vivants, et ça, c'est aussi très...
C'est ce que la quatrième de couverture dit, qu'il s'agit de contribuer à maintenir vivante la mémoire littéraire. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée aussi, parce que le morceau choisi, ça fait hésiter un peu. On sait combien ça déforme les œuvres, mais on essaie de proposer des choses assez célèbres, pas toujours autant les unes que les autres, mais avec l'idée qu'il n'y a pas tellement cette idée que ça existe tout seul dans son coin, parce que c'est accompagné de tous ces regards dont parlait Véronique et de toutes ces pratiques, même éditoriales, qui sont intéressantes à rappeler aussi. Voilà.
Oui, puis c'est finalement assez rare d'avoir un texte intégral comparé à un autre texte intégral.
Ouais,
donc, si on pense au manuel, souvent c'est très découpé, ces comparaisons-là. Donc, les extraits ne sont pas passés.
Alors oui, effectivement, comme le disait Isabelle, le choix d'un extrait a ses propres limites. On attire toujours l'attention des étudiants sur le fait qu'on ne peut pas tirer les conclusions de l'examen d'un extrait d'un texte. On ne peut pas tirer des conclusions générales sur les stratégies de tel ou tel traducteur. Mais malgré tout, si le responsable du volume choisit bien son extrait, il peut mettre en lumière des divergences majeures dans l'interprétation et aussi dans la forme aussi. Par exemple, est-ce que tel ou tel traducteur va traduire tel poème ou tel extrait de théâtre en vers ou en prose? Bon, on sait que la question se pose pour Shakespeare, mais aussi pour d'autres auteurs, pour des auteurs de théâtre comme pour des auteurs de poésie. Donc, ne serait-ce que ça, voir très concrètement apparaître sur la page un texte écrit en vers à l'origine, mais traduit en prose ou en vers selon les cas, c'est déjà une expérience de lecture intéressante.
Et est-ce qu'au cours des colloques, des différentes sollicitations auxquelles vous répondez, vous avez parlé de cette collection avec des enseignants étrangers, en fait, d'autres universités qui auraient pu être aussi... intéressé par une telle collection, parce qu'on peut imaginer une coédition ou en tout cas de traduire la préface et ça pourrait aussi...
Moi, j'en ai offert. J'ai offert des volumes quand je me suis déplacée comme prof invitée ici ou là. J'ai offert des volumes à des collègues qui s'intéressaient à la traduction, qui ont souvent été très séduits par l'objet. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'on nous ayons fait des petits à l'étranger.
Non, non, moi aussi, j'ai offert des volumes et... Je n'ai pas vu de volonté de reproduire ça à l'étranger. Mais Peut-être que ça existe et que je n'en sais rien, en fait. C'est possible.
Oui, ça.
C'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que c'est un objet qui ne laisse pas indifférent les spécialistes, on pourrait dire, ou les comparatistes, ou les traductologues, ou ceux qui sont dans le domaine des études de traduction. C'est quand même toujours intéressant. Enfin, je me souviens qu'en Suisse, ça avait été très... Il y avait d'un côté sur les tables la grosse histoire des traductions en langue française et les petits volumes. Et les gens étaient très intéressés par les petits volumes aussi. Mais bon, ça ne veut rien dire de très rigoureux, hein, mais non.
Il faut savoir aussi que le prix est quand même attractif. Hein. Ouais. On a beaucoup milité pour que ces volumes soient accessibles.
Ça a commencé à 8 euros et je crois que c'est arrivé à 9. Voilà, 9 euros.
Donc, il y a quand même une volonté aussi de diffusion démocratique dans le choix d'un prix... doux.
Oui, et je pense qu'en fait, ça participe au fait que je le trouve pas intimidant, cet ouvrage, oui. Et c'est intéressant. Mm. Parce que, enfin, moi, j'aimerais qu'il soit plus connu. Je le trouve vraiment...
Ben, merci d'y contribuer, j'espère. Oui, moi aussi, j'aimerais bien. Et ce qui a été important pour moi dans l'accord de Véronique pour co-diriger la collection, c'est que moi, je me suis beaucoup épuisée à l'imposer. Et Véronique a apporté l'énergie de quelqu'un qui croit et qui n'a pas ce passif. Donc, c'était important d'être deux. Peut-être que dès le début, ça aurait été une bonne idée de ne pas aller seule. Enfin, j'étais, en fait, très secondée par l'infographiste, mais qui n'a pas le même pouvoir que, je crois, un enseignant-chercheur, même s'il pouvait tout à fait prétendre à revendiquer cette collection qui est aussi la sienne. Voilà.
Et quel âge a cette collection ? Parce que je ne suis pas sûre qu'on est...
2011, premier 2011. Volume. Voilà. Donc, ça fait quoi, 13 ans ?
On pourra peut-être les 15 ans.
Voilà, fêter les 15 ans.
Ouais, ça serait une belle occasion.
On n'a même pas fêté les 10 ans, mais 2021, on était un peu confinés, je crois.
Oui, c'est ça.
On peut peut-être parler aussi de l'autre volet, du volet pensée de la traduction, qui est plus, j'allais dire, plus... moins original, puisque c'est un volet qui inclut des volumes de textes critiques, de textes universitaires, mais aussi des textes de traducteurs. C'est-à-dire que ce qui nous importe dans le volet pensée de la traduction, qui a un format un peu différent, il est un peu plus grand, qui comporte une introduction et donc une sélection de textes critiques, souvent issus de colloques ou de journées d'études. Ce qui nous importe quand même aussi, c'est de faire entendre la voix des traducteurs. Donc, dans le cas du volume sur la retraduction de The Great Gatsby de Fitzgerald, il y a deux assez longs entretiens avec, d'une part, un retraducteur français de l'œuvre qui s'appelle Philippe Jaworski et un retraducteur allemand de cette œuvre à peu près à la même époque, puisque donc, au tournant 2011... quand les œuvres de Fitzgerald sont tombées dans le domaine public, et le même phénomène s'est produit un peu partout, d'une multiplication des traductions. Et donc voilà, pour moi, c'est important que les traducteurs prennent la parole. Ils ont un discours qui est souvent... qui ressemble à certains égards au discours des universitaires, mais qui n'a absolument rien à voir dans le sens où il y a une dimension évidemment pragmatique, dans le sens où... c'est souvent nourri d'exemples, voire même d'anecdotes. Et puis, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire entendre des traducteurs. À défaut, traducteurs sont des gens un peu compliqués. Ils ne recherchent pas forcément la visibilité, hein, pas tous. Mais en tout cas, ils sont quand même attachés à ce qu'on reconnaisse leur existence d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça, c'est aussi le moyen de faire entendre leur voix, d'autant plus que, bon, c'est un peu une banalité, mais il n'y a pas de meilleur lecteur d'une œuvre que le traducteur. La traductrice connaissent intimement l'œuvre qu'ils ont traduite. Donc, ils ont forcément des choses, la plupart du temps, extrêmement intéressantes à dire sur les stratégies narratives, le style, le registre, la voix, les niveaux de langue, etc. Aussi la cohérence d'un texte.
Voilà, oui, donc. Les difficultés dont ils font part parlent peut-être plus facilement aussi à un grand public que des interrogations plus théoriques, on va dire, sur la traduction. Donc là, c'est aussi une entrée intéressante pour la lecture.
Oui.
L'idée initiale, mais l'évolution est intéressante aussi, c'était de publier un volume pratique avec une introduction qui introduit vraiment les traductions, qui les contextualise, disons, mais qui ne propose pas d'explication de texte, disons, parce que c'était des objets destinés à l'enseignement aussi. Et le volet pensée pouvait recueillir toutes sortes de réflexions à part. Mais par exemple, l'idée, c'était de faire un volume sur Hamlet, pratique, et un volume pensée. Et puis, on a été totalement débordés par des contraintes et des combats autres. Mais maintenant qu'il y a un espace de réflexion parallèlement, et c'est très bien aussi, sans que ce soit tout à fait en lien avec les volumes eux-mêmes, mais par exemple, qu'il y ait un volume Gatsby, ça aurait été très bien aussi. Bon.
C'était le projet.
Voilà, mais... tous les sens, c'est le projet. Ouais. Et puis, on passe à autre chose, ouais. Parce qu'on a des rythmes un petit peu précipités, quand même, dans nos métiers, je dirais. Bon.
Oui, et la cohérence peut se faire autrement.
Voilà, elle se fait autrement.
On peut peut-être parler, ou tu peux peut-être parler du volume à apparaître.
Alors, volume à apparaître, qui est co-dirigé par des comparatistes, va mettre en perspective, justement, ce qui est appelé dans ce volume le tact critique et la question de la traduction dans la recherche comparatiste. Donc, il y a un lien entre le travail de tâtonnement, le but de ce volume, c'est de montrer le lien entre ce travail de tâtonnement, qui n'a rien de péjoratif, le tâtonnement, mais presque artisanal du traducteur, et la façon dont un comparatiste, de son côté, essaie d'assembler aussi des œuvres pour en déduire des sortes de lunettes un peu singulières sur tel ou tel phénomène littéraire. Et donc, voilà, c'est un volume qui associe des réflexions sur... l'aspect théorique de ces questions et d'autres qui sont des articles qui sont beaucoup plus attachés à des cas concrets de traduction ou de comparaison de culture et de langue. Voilà. Donc, il est à paraître, sinon à la fin de l'année 2024, sous la direction de Céline Barral et Fabienne Riard-Diamond, en tout cas au tout début 2025. Voilà. Et du côté pratique, moi, j'ai l'idée depuis longtemps de faire un volume Nabokov et je crois que je vais en proposer un quand même, puisque c'est l'auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé et que ce serait la moindre des choses qu'il entre dans cette collection plurilingue. Voilà,
en tout cas, vous ne manquez pas d'idées pour les numéros à venir. Non. Et puis, on ne peut que souhaiter longue vie à cette collection.
Merci.
Je vous remercie toutes les deux.
Merci.
Merci pour votre participation et à très bientôt.
Merci à Véronique et Isabelle pour leur disponibilité et leur enthousiasme. Merci de nous avoir écoutés et merci à l'Université d'Angers et à l'Académie Pulsar de la région Pays de la Loire pour leur soutien.
Vous pouvez suivre l'actualité du projet PICT sur notre carnet hypothèse. À bientôt!